de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, solitaires, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Président Joko Widodo arrive à Washington, D.C. Président Jokowi est parti pour les États-Unis après avoir assisté au sommet de l'OCI à Riyad. Représentant indonésien en Égypte cherche à distribuer de l'aide humanitaire. Indonésie invite les membres de l'UNESCO à réaliser l'avenir de l'éducation durable. Équipe nationale indonésienne est arrivée en Irak pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Indonésie soutient l'avancement de la culture et de la recherche. Athlète indonésien a remporté la deuxième place au Championnat du monde UCIMTB 2023. Bonjour, Jokowi, voici les nouvelles incomplètes. Le président Joko Widodo est arrivé à Washington, D.C. aux États-Unis dimanche heure locale ou lundi heure indonésienne pour rencontrer le président des États-Unis, Joe Biden. L'avion du président a atterri à la base militaire d'Andrew à Washington, D.C., lundi matin, heure indonésienne. Cité par Antara, à partir d'un communiqué du bureau de presse du secrétariat présidentiel, on dit « Au bas des escaliers de l'avion, le président Joko Widodo a été accueilli par le chef, par intérim, du protocole des États-Unis, Ethan Rosenzweig. À son arrivée à l'hôtel, le président a été accueilli par le ministre coordonnateur des Affaires maritimes et de l'investissement par intérim, Eric Toir, le ministre de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie, Nadim Makarim, et le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales, ESDM, Arif Tasrif. À Washington, D.C., le président Joko Widodo doit rencontrer le président américain Joe Biden à la Maison Blanche. Auparavant, le président a déclaré que la réunion était une bonne occasion d'exprimer la position ferme de l'Indonésie concernant la situation à Gaza. Le président indonésien Joko Widodo est parti pour les États-Unis dimanche 12 novembre après avoir assisté à la conférence extraordinaire de haut niveau de l'Organisation de la coopération islamique OCI à Riyad en Arabie Saoudite. Le secrétariat présidentiel, dans une déclaration écrite citée par Antara, a rapporté que le départ du président Joko Widodo était accompagné du vice-gouverneur de Riyad, Amir Mohammed bin Abdurrahman, de l'ambassadeur d'Indonésie auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdul Aziz Ahmed, de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Indonésie. Faisal bin Abdullah Al Amoudi est l'attaché de défense de l'ambassade d'Indonésie à Riyad, le général de brigade de l'armée nationale indonésienne Putut Wicaksono, la ministre des Affaires étrangères Adnan Marsudi, le ministre du Commerce Zulkifli Hassan et le secrétaire militaire du président, le contre-amiral de l'armée nationale indonésienne Hersan. Accompagné également le président Joko Widodo lors du vol vers les États-Unis. Représentant indonésien en Égypte cherche à distribuer de l'aide humanitaire. Les représentants indonésiens en Égypte continuent de faire des efforts pour que l'aide puisse être distribuée aux victimes du conflit dans la bande de Gaza afin qu'elle puisse être utilisée par les Palestiniens. C'est ce qu'a transmis le commandant de l'armée nationale indonésienne, l'amiral Yudo Margono, dans une déclaration écrite dimanche 12 novembre. Yudo Margono a ajouté qu'il négociait toujours pour que l'aide puisse être distribuée. Le représentant indonésien a également suivi les procédures applicables dans la région. Il a été déclaré que pas seulement l'aide humanitaire de l'Indonésie était toujours bloquée en Égypte, mais que l'aide d'autres pays était également bloquée. Il a également été déclaré que l'armée nationale indonésienne, TNI, et le peuple indonésien continuent de collecter de l'aide humanitaire afin qu'elle puisse être envoyée en Palestine à l'étape suivante. L'Indonésie invite tous les pays membres de l'UNESCO à réaliser un avenir durable conformément aux principaux piliers de l'UNESCO, à savoir l'éducation, la culture, la science, la communication et l'information. Cette invitation a été transmise par le secrétaire général du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie, Suharti. Lors de la 42e Assemblée générale de l'UNESCO à Paris, en France, comme en Indonésie, dans une déclaration écrite dimanche 12 novembre, citée par Antara. Au cours de la session, Suharti a exprimé l'engagement de l'Indonésie en faveur d'une réforme mondiale de l'éducation. Suharti a expliqué que l'Indonésie est activement impliqué dans l'éducation pour le développement durable EDD à travers la mise en œuvre de la politique de liberté d'apprendre, le programme Merdeka ou Liberté d'apprendre permet des ajustements flexibles du rythme d'apprentissage, évite aux étudiants de prendre du retard et intègre des thèmes liés aux objectifs de développement durable tels que le changement climatique et la diversité dans le cadre éducatif. L'équipe nationale senior indonésienne Timnas est arrivée en Irak dimanche 12 novembre pour affronter ce pays au deuxième tour de l'épreuve de qualification pour la Coupe du Monde 2026 pour la zone asiatique. Le match se jouera au stade international de Basra à Bassora en Irak le jeudi 16 novembre. Antara a rapporté qu'à son arrivée en Irak, l'équipe nationale indonésienne a immédiatement organisé un entraînement dans l'après-midi heure locale. Plus tard, après avoir quitté l'Irak, l'Indonésie s'envolera pour les Philippines pour affronter ce pays au deuxième tour du match de qualification pour la zone asiatique pour la Coupe du Monde 2026 au Rizal Memorial Stadium à Manille, aux Philippines, le mardi 21 novembre prochain. Secrétaire général du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie, Suharti, a souligné que l'Indonésie soutient l'avancement de la culture et diverses recherches pour créer un avenir durable. Il a fait savoir lors de la 42e Assemblée générale de l'UNESCO à Paris, en France, comme indiqué dans sa déclaration écrite dimanche. Cité par Antara, au cours de la séance, Suharti a expliqué que dans un effort de réalisation du progrès culturel, l'Indonésie encourage les approches innovantes à travers le fonds de dotation culturelle afin de renforcer également envers l'esprit d'unité dans la diversité. Ce article a également déclaré que l'Indonésie reconnaît le rôle central de la culture pour surmonter la crise mondiale. Par conséquent, l'Indonésie organisera une conférence internationale en août 2024 pour discuter des moyens d'explorer les ressources naturelles nationales afin de contribuer à la gestion d'une crise multidimensionnelle. L'athlète féminine de vélo de montagne d'Indonésie, Dara Latifah, a remporté la deuxième place du championnat du monde mountain bike VTT UCI 2023 qui s'est déroulé sur le circuit SG 1973, complexe du stade Tuah Pahu, Palangkaraya, Kalimantan Central, dimanche 12 novembre. Rapporté par Antara dans la catégorie élite femmes, la première place a été remportée par la vététiste italienne Gaia Tormena de la France, suivie en deuxième place de son compatriote Lorenzo Ceres, tandis que la troisième position est occupée par Sandra Roque de Norvège. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Le président du Koweït rencontre le président des États-Unis, Joe Biden, à Washington. » Le président du Koweït a rencontré le président des États-Unis, Joe Biden, à la Maison-Blanche pour discuter de la sécurité régionale et de la transition énergétique respectueuse de l'environnement lundi le 13 novembre 2023. Le président Joko Widodo est parti pour Washington depuis Riyad en Arabie Saoudite après avoir assisté au sommet de l'Organisation de coopération de l'État islamique, OCI, dimanche le 12 novembre 2023. En Amérique, le président Joko Widodo participera également au sommet de la coopération économique Asie-Pacifique, APEC, à San Francisco du 15 au 17 novembre. Dans un communiqué de presse à l'aéroport de Juanda avant de s'envoler pour Riyad, vendredi soir, le président Jokowi a souligné que la rencontre avec le président Joe Biden était une bonne occasion d'exprimer la position ferme de l'Indonésie concernant la bande de Gaza. Pendant ce temps, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a expliqué que les deux dirigeants discuteraient des moyens de faire respecter le droit international et de garantir une région Indo-Pacifique libre et ouverte. Elle a déclaré que le président Biden réaffirmerait l'engagement des États-Unis à renforcer le partenariat qui dure depuis près de 75 ans entre les deuxième et troisième plus grands pays démocratiques du monde. Karine Jean-Pierre a déclaré que les deux dirigeants exploreraient également les possibilités d'accroître la coopération dans la transition vers l'énergie verte, de faire progresser la prospérité économique et de renforcer la paix et la stabilité régionale. L'Indonésie, le plus grand pays d'Asie du Sud-Est, est un partenaire régional important pour Washington. Bien que la Chine soit le principal partenaire économique de l'Indonésie, l'Indonésie est un gros acheteur d'armes américaines et les experts régionaux s'attendent à ce que les deux parties discutent de l'amélioration des liens de sécurité lors de réunions cette semaine à Washington. Lundi, la semaine dernière, le quotidien économique international britannique Financial Times a cité le président Jokowi appelant les États-Unis et d'autres pays occidentaux à canaliser les 20 milliards de dollars américains promis pour financer la transition énergétique verte de l'Indonésie et à intensifier les mesures pour soutenir l'importante industrie minière indonésienne. Ce quotidien économique a cité le président Joko Widodo qui aurait déclaré dans une interview qu'il y avait d'énormes inquiétudes en Indonésie concernant le retard de financement. Washington et ses partenaires du G7 se sont engagés il y a un an à fournir des fonds pour aider à accélérer la transition énergétique verte, entre autres en fermant des centrales électriques au charbon en Indonésie et au Vietnam. Cependant, les projets visant à réduire la consommation de charbon en Indonésie et au Vietnam avec le soutien financier des pays donateurs occidentaux ne sont pas déroulés sans heurts. Cela pourrait avoir un impact sur les perspectives des pays plus riches d'aider les pays les moins nantis à passer à une énergie plus verte, même si c'est l'une des principales priorités de l'administration de Biden. Espérons que la visite du président Joko Widodo en Amérique cette fois apportera les résultats escomptés. L'Indonésie peut exprimer avec fermeté sa position politique sur la question de Gaza. En revanche, la politique de transition énergétique continuera à être bien mise en œuvre. Ces auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'histoire d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Nous allons commencer l'histoire d'aujourd'hui avec le 13 novembre 1990. Le premier World Wide Web, WWW, est créé. Le 13 novembre 1990, la première page du World Wide Web, WWW, était créée. À cette époque, le WWW était le seul moyen de consulter le web. Désormais, chaque fois que vous accédez à un site web dans un navigateur web, ces trois lettres apparaissent souvent. WWW est un mode d'affichage d'informations sur Internet sous format de texte interactif, d'images, de sons ou de vidéos et présente l'avantage de relier un document à un autre hypertexte accessible via un site web. Les informations présentées via le web sont construites à l'aide de langages de semi-programmation. Nous continuons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 13 novembre 1998, tragédie de Semanggi 1 qui a tué 17 civils. La tragédie de Semanggi du 13 novembre 1998 fait référence à deux incidents de protestation publique contre la mise en œuvre et l'ordre du jour de la session extraordinaire de représentants du peuple indonésien MPR de la République d'Indonésie qui ont entraîné la mort des civils. Le premier incident connu sous le nom de tragédie Semanggi 1 s'est produit du 11 au 13 novembre 1998 sous le gouvernement de transition indonésien et a entraîné la mort de 17 civils. Le deuxième incident connu sous le nom de tragédie Semanggi 2 s'est produit le 24 septembre 1999, causant la mort d'un étudiant et de 11 autres personnes dans tout Jakarta et faisant 217 blessés. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec le 13 novembre 2015. Une attaque terroriste armée dans la ville de Paris a tué 150 civils. Des attaques terroristes armées dans plusieurs endroits de la ville de Paris, en France, auraient tué au moins 150 personnes le vendredi 13 novembre 2015, hors local. À cette époque, les Parisiens avaient été priés de rester chez eux et environ 1500 personnes restent chez eux et environ 1500 personnels avaient été déployés dans toute la ville. L'attaque meurtrière aurait visé la salle de concert de Bataclan. On raconte que 6 à 8 preneurs d'otages auraient pénétré dans le bâtiment. Les auteurs ont pris en otage une soixantaine de personnes dans le bâtiment. Par ailleurs, 3 autres explosions ont été attendues à proximité du stade en France, qui accueillait un amical France-Allemagne. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Bagaimana hidupku bila aku tak menemukanmu? Lama sudah aku menunggu hadirnya seseorang seperti dirimu. Semua keindahanku saksikan dengan mudahnya kau kalahkan di detik saat kau katakan ya. Oh ya, ku tahu ku temukan apa yang ku cari selama ini. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku dan ku berharap selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu dari dulu. Oh, banyak kekalahan dalam hidupku, oh, dan kini ku menangkan hatimu. Oh yeah, pastikan kita temui masalah, bertengkar karena hal yang itu-itu saja. Namun kan mendewasakan kita. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, bukan mungkin.
dan apapun yang kan terjadi selalu bersama. Lengkap sudah hidupku berakhir penantianku. Lengkap sudah hidupku berakhir penantianku. Kini kau telah jadi milikku dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu.
Voilà la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
16e lointaine, pour la week suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est « Le président Joko Widodo appelle l'OCI à s'unir pour résoudre la crise à Gaza ». Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, a appelé l'Organisation de la coopération islamique, OCI, à s'unir et à être à l'avant-garde de la résolution de la crise à Gaza en Palestine. Cela a été transmis par le président Joko Widodo lors de son discours au sommet de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, qui s'est tenu samedi au Centre de Congrès international King Abdulaziz, KAICC, à Riyad, en Arabie Saoudite, 11 novembre. Comme l'a montré le compte YouTube @secrétariat présidentiel, le président a déclaré que l'Indonésie soutenait la tenue du sommet de l'OCI, considéré comme très approprié pour produire des choses concrètes afin que les atrocités israéliennes à Gaza puissent cesser immédiatement. Selon le président, aucun des plus de 7,9 milliards d'habitants et des plus de 190 chefs d'État qui comptent la planète n'est en mesure de mettre fin à cette cruauté. S'exprimant devant les dirigeants des pays islamiques, le président Joko Widodo a fait 4 suggestions concrètes. Premièrement, exiger un cessez-le-feu immédiat. Selon le président, sans cessez-le-feu, la situation ne s'améliorera pas. Il a ajouté qu'Israël a utilisé le discours de la légitime défense et continue de tuer des civils. Ce n'est rien d'autre qu'une punition collective. L'OCI doit trouver un moyen pour qu'Israël mette immédiatement en œuvre un cessez-le-feu. Deuxièmement, le président Joko Widodo a encouragé l'accélération et l'élargissement de l'aide humanitaire. Le président a ajouté que, considérant que la situation humanitaire à Gaza est très préoccupante, l'OCI doit proposer un mécanisme d'assistance le plus prévisible et plus durable. Le président a également appelé l'OCI à exiger des comptes d'Israël et a demandé que des négociations de paix soient menées immédiatement.
Yang ketiga, OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan.
Troisièmement, l'OCI doit utiliser tous les fronts pour demander des comptes à Israël pour les atrocités humanitaires qu'il a commises. Par exemple, en demandant instamment d'accorder l'accès à la commission d'enquête internationale indépendante sur le territoire palestinien occupé qui a été créé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour mener à bien son mandat en continuant à soutenir le processus d'avis consultatif à la Cour internationale de justice. Quatrièmement, l'OCI doit exhorter à la reprise immédiate des négociations de paix afin de parvenir à une solution Adjeta rejeté l'idée d'une solution à un État, car la Palestine sera définitivement sacrifiée. Et si le mécanisme de quatuor n'est plus fiable, alors l'OCI doit encourager le processus de négociation de paix avec un nouveau format. Et l'Indonésie est prête à contribuer aux négociations de paix. À la fin de sa déclaration, le président Joko Widodo a déclaré qu'avec la permission des dirigeants des pays de l'OCI, il transmettrait les résultats du sommet extraordinaire de l'OCI au président américain Joe Biden. Le président Joko Widodo doit quitter Riyad pour effectuer une visite bilatérale aux États-Unis. Pendant ce temps, lors d'une réunion avec le président Mahmoud Abbas samedi, le président Joko Widodo a réitéré le ferme engagement de l'Indonésie à continuer de soutenir la Palestine de manière optimale et concrète. Le président a déclaré que les actes odieux contre les civils palestiniens en Cisjordanie constituaient une grave violation du droit international et des valeurs humanitaires. Au cours de la réunion, le président Abbas a déclaré que l'Indonésie était l'un des pays continuant de soutenir la lutte du peuple palestinien. C'est Zuritar, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Oh,
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Ses auditeurs, Bengkulu, une province de Sumatra, est célèbre pour être l'habitat naturel de Rafflesia arnoldi, la plus grande fleur du monde. L'un des sites touristiques les plus populaires de Bengkulu est la plage. Outre les plages, cette province possède d'autres destinations touristiques naturelles. L'une d'elles est la cascade, également connue sous le nom de Curug. La cascade visitée par de nombreux touristes est Curug Chai. L'attrait esthétique de cette cascade vaut la peine d'être visitée. Chers auditeurs, Curug Chai est situé dans le village de Bukit, le district de Talang 4, la résidence de Bengkulu Central, la province de Bengkulu. Vous pouvez voyager par voie terrestre depuis la ville de Bengkulu jusqu'à l'emplacement sur une distance d'environ 25 km avec un temps de trajet de 45 minutes. Une fois arrivé au site touristique, pour entrer par la porte de Curug Chai, des frais de stationnement de 2000 rupiah par véhicule à 2 roues et de 5000 rupiah par véhicule à 4 roues vous seront facturés. Vous devez également payer 2000 rupiah pour le billet d'entrée à cette attraction touristique. Le voyage ne s'arrête pas là, vous devez retourner au lieu touristique à pied environ 200 mètres après les plantations de via locales et 172 marches jusqu'à la zone de la cascade. Descendre ces escaliers est assez fatigant car la pente peut atteindre 45 degrés. Une fois arrivé à la destination touristique, vous serez émerveillé par la beauté de Curug Chai. Ces cascades mesurent environ 12 mètres de haut. Autour d'elle, des arbres en posant poussent encore, ce qui rend l'atmosphère ici très froide. Curug Chai possède une piscine de 15 à 20 mètres avec une profondeur d'eau d'environ 3 mètres. Vous pouvez sauter directement dans cette piscine de cascade pour ressentir la fraîcheur de l'eau. Chers auditeurs, en plus de nager dans la piscine de cascade, n'oubliez pas de prendre des photos de tous les coins de la beauté de Curug Chai. Si vous commencez à être fatigué, vous pouvez vous asseoir sur les sièges prévus à cet effet. Les sièges y sont en bambou, il y a deux sièges assez grands, l'un des sièges est dans un arbre, précisément au-dessous de la cascade. Il mesure 2 mètres et est très robuste. D'en haut, vous pouvez voir de magnifiques vues naturelles. Curug Chai propose des installations telles qu'une salle de prière, des stands vendant de la nourriture et des endroits pour se changer. Alors, ne vous inquiétez pas si vous vous douchez là-bas et souhaitez vous changer, car des installations sont prévues. Bon, chers auditeurs et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec comme titre Curug Chai à Bengkulu. Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Think you and me get for you. A simple equation of love wouldn't be so hard. Hold on, I think I'm in love. Hold on, I think I'm in love. With you.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Festival Pesona Mentawai. Festival Pesona Mentawai signifie le festival d'enchantement Mentawai. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Mereka sangat pemberani. Je répète, Mereka sangat pemberani signifie « ils sont très courageux ». Cette conversation a eu lieu entre Chris George Robinson, un vlogger australien, et une guide touristique sur l'île de Siberut, île Mentawai. Chris a exprimé ses sentiments sur le caractère d'un jeune pratiquant le tir à l'arc au festival de tir à l'arc traditionnel de Mentawai. Écoutons la conversation.
Mereka memakai busur panah tradisional Mentawai.
Mereka sangat pemberani. Busurnya saja setinggi tubuhnya.
Iya, anak-anak itu berlatih memanah untuk berburu sejak kecil.
Oke, Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Mereka sangat pemberani. Mereka sangat pemberani signifie ils sont très courageux. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez la répéter après moi. Mereka. Mereka signifie il. Sangat pemberani. Sangat pemberani signifie très courageux. Mereka sangat pemberani. Mereka sangat pemberani signifie ils sont très courageux. Busur panah. Busur panah signifie arbalète. Traditionnel. Traditionnel signifie traditionnel. Setinggi tubuhnya. Setinggi tubuhnya signifie haute que sa taille. Anak-anak. Anak-anak signifie les enfants. Berlatih. Berlatih signifie pratique. Memanah. Memanah signifie tir à l'arc. Berburu. Berburu signifie chasse. Sejak kecil. Sejak kecil signifie depuis l'enfance. Dans la conversation, vous entendez la phrase Mereka sangat pemberani. Je répète, Mereka sangat pemberani signifie ils sont très courageux. Cette phrase est une réponse affirmative à l'énoncé Mereka memakai busur panah tradisional Mentawai. Mereka memakai busur panah tradisional Mentawai signifie ils utilisent des armes traditionnelles de Mentawai. Dans ce discours, il y a le mot pemberani. Je répète, pemberani signifie courageux, c'est-à-dire une personne qui a du courage. Le mot pemberani, pemberani signifie courageux, est placé après le mot mereka. Mereka signifie il pour exprimer la nature ou le caractère des enfants de la tribu Mentawai. Un autre exemple. Allez écouter d'autres exemples d'utilisation de mots qui expriment la nature ou le caractère. Penakut. Penakut signifie lâche, est une personne qui a un caractère craintif. Chris bukan penakut. Chris bukan penakut signifie Chris n'est pas un lâche. Penyabar. Penyabar signifie patient, c'est-à-dire une personne qui a un caractère patient. Sinta, seorang pemandu wisata yang penyabar. Sinta, seorang pemandu wisata yang penyabar. Signifie Sinta est un guide patient. Dans le festival Pesona Mentawai, ou en français, le festival d'enchantement Mentawai, il y a le festival de tir à l'arc traditionnel de Mentawai. Pendant le festival de tir à l'arc, des activités liées aux flèches traditionnelles sont organisées, notamment des compétitions de tir à l'arc et l'attraction de concocter des flèches empoisonnées. Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Mereka memakai busur panah tradisional Mentawai.
Mereka sangat pemberani. Busurnya saja setinggi tubuhnya.
Iya, anak-anak itu berlatih memanah untuk berburu sejak kecil.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir! Oh,
can be so hard, I see. Life is bittersweet. Find me possibilities, yeah. That's all I need. Oh, hold your head up high. Show 'em what you got.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson Kronchon intitulée Kronchon Chinchin. Ce jour, la chanson Kronchon Chinchin est sortie chez Kous Plus en 1974. Cette chanson chantée pour Tommy Kusoyo est l'une des chansons du tome 10 de ce groupe mythique. Kous Plus lui-même a été créé en 1969 dans le prolongement du groupe Kous Brothers. Ce groupe de musique a connu son apogée dans les années 1970. La chanson Kronchon Chinchin raconte l'histoire d'un projet de valeur qui homme offre à son amante, un signe d'amour. Cet objet se présente sous la forme d'une bague qui ne quitte jamais le doigt de l'amant dans toutes les situations, qu'elles soient heureuses ou tristes. Bon, chers auditeurs, voici la chanson Keroncong intitulée Keroncong Cincin, chantée par Kus Plus. Bonne écoute.
Lihatlah di jarima.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.